comité de Genève et de Lausanne, Madame la directrice de PNR 35, Mesdames et Messieurs les chercheurs et chercheuses du programme PNR, et Mesdames, je crois uniquement Mesdames, qui avaient bien voulu venir aujourd'hui, j'ouvre donc cette journée et je voudrais rappeler quelques points. Et tout d'abord, le premier point, le plaisir immense que nous avons à organiser cette journée. Je pense que c'est un événement parce que nous réunissons un ensemble de recherches sur l'égalité ou l'inégalité des femmes dans la société d'une part, et d'autre part, l'insertion de ces recherches que nous voudrions dans le monde universitaire. Je voudrais remercier ici les universités de Genève et de Lausanne qui sont représentées par leurs vice-recteurs respectifs chargés des questions féminines. Et je voudrais remercier ces institutions très fortement de l'encouragement qu'elles nous donnent à l'heure actuelle pour poursuivre dans la voie autant de la promotion des femmes que des réflexions qui se sont engagées sur la place et le statut des femmes dans la société. Et je voudrais remercier aussi le Fonds national suisse de la recherche scientifique qui s'est chargé non seulement de l'aspect matériel de cette journée, mais qui est l'occasion de nous réunir aujourd'hui. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui prendront la parole aujourd'hui dans le cadre des enquêtes qui ont été faites. Et je voudrais remercier les chercheurs d'autres universités du monde roman qui se sont déplacés aujourd'hui. Je crois qu'il faut le préciser, ce n'est pas facile, et cela n'a pas été facile que toutes les personnes romandes ayant participé au Fonds national de la recherche scientifique soient présentes aujourd'hui. Nous sommes en période de reprise de semestre, et je sais que pour les uns et les autres, il a fallu jongler très fortement pour pouvoir être ici et pour pouvoir présenter les résultats de la recherche. Et donc, je remercie très vivement aussi les chercheurs et les chercheuses qui ont toutes fait l'effort d'être aujourd'hui parmi nous. Je voudrais, pour le déroulement de la journée, préciser quelques points très rapidement. Nous avons donc 8 recherches qui sont présentées, 8 recherches qui feront donc l'objet d'une présentation, et je l'espère que ceux qui interviennent se tiendront à la limite dans le temps que nous avons fixé, à savoir 15 minutes de présentation pour leurs recherches. Je crois qu'il est important de se tenir à ce moment pour une simple raison, c'est qu'autrement nous serons très handicapés pour la discussion. Et je crois qu'il est important, c'est une des questions principales de cette réunion, un des moments importants, que nous puissions discuter des résultats qui vous sont annoncés, qui n'ont pas encore toujours tous fait l'objet d'une publication accessible à tout le monde. Et donc, nous aurons après l'introduction, nous aurons donc 4 interventions ce matin, suivies d'une brève pause, et cette pause est importante pas seulement pour les rafraîchissements, je pense que c'est le moment d'une prise de contact, de questions informelles que l'on peut poser. Et ensuite, nous aurons donc une table ronde qui sera animée ce matin par Madame Laura Cardia-Fonesch, qui est sociologue, et cet après-midi par Madame Gonick, qui est ergonome. Et nous finirons la journée, ce n'était pas peut-être très clair dans le programme, mais nous finirons la journée après avoir eu une synthèse du professeur Balmer, directrice du PNR 35, et donc la journée se terminera vers 16h45, 17h. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et je passe la parole aux 2 vice-recteurs des universités de Genève et de Lausanne. Et je ne sais pas dans quel ordre. De l'invité. Voilà. Merci. Alors, je vous passe la parole.
Merci, Madame Held. Mesdames et messieurs, mon message de bienvenue est surtout un message de soutien. Tout d'abord, pour vos travaux, dont je perçois l'intérêt aussi bien scientifique que social. Ensuite, de manière plus générale, pour toutes les démarches qui favorisent les rapports sociaux sur un pied d'égalité entre hommes et femmes. J'ai pu voir dans divers groupes que l'instauration de telles relations et une représentation des deux sexes conduisent généralement à une amélioration notable des conditions de travail. Cette voie est donc à suivre et à encourager fermement. Malheureusement, force est de constater que même à l'université, nous sommes loin d'une répartition à peu près équilibrée entre hommes et femmes dans les différents secteurs d'activité, excepté peut-être dans celui des étudiants. Cela ne tient pas tant à une question de droit, mais plutôt à une question d'ordre social. Comment percevons-nous notre rôle à jouer et celui des autres? Cette perception peut être fixée très tôt par des événements apparemment anodins. Il y a peu de temps, lors d'un mariage, le pasteur a répété à plusieurs reprises « Hommes, jouissez de vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. » et toute cette sorte de choses, ce qui avait le don de fortement irriter ma femme. Pour se consoler, elle se servit de bonbons à la sortie de l'église. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir écrit sur l'emballage le dicton suivant. Die tätige Hausfrau ist der Schmuck des Hauses. En français, la ménagère besogneuse est le joyau de la maison. Décidément, il y a encore bien du chemin à faire pour qu'une certaine égalité de fait entre hommes et femmes devienne une réalité. Je formule mes meilleurs vœux pour votre colloque et la suite de vos travaux. Merci.
Merci. Madame Rivet.
Chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté l'invitation d'Anne Lizède à dire quelques mots de bienvenue au nom du rectorat de l'Université de Genève lors de l'ouverture de ce colloque « Hommes-femmes, métamorphose d'un rapport social » organisé dans le contexte du PNR 35. Je veux dire que c'est aussi pour moi un privilège, mais que je ressens comme étant quelque peu usurpé, que de m'adresser à vous aujourd'hui sur ce thème de l'égalité homme-femme à l'université, car j'ai le sentiment de me trouver au rectorat juste au bon moment, c'est-à-dire celui d'une première récolte de fruits que d'autres que moi ont pris grand soin à cultiver. Je sais que certains et certaines d'entre nous trouveront que la marche vers l'égalité entre hommes et femmes dans notre société est d'une extrême lenteur. En lisant le programme de votre colloque, je me suis souvenue d'un passage de l'introduction de l'ouvrage dirigé par Evelyne Sullerot, Le fait féminin, que je me souviens d'avoir souvent cité à mes étudiants dans les années 80, lorsque dans mon enseignement de psychologie différentielle, j'en arrivais au chapitre des différences entre les sexes. Et à l'époque, il faut dire que le fait même de prononcer des termes tels que hérédité ou capital génétique faisait à eux seuls surgir des controverses parmi les psychologues. Alors voilà ce que disait Evelyne Sullerot en 78 dans cette introduction. Je la cite. « Pour moi, qui depuis 20 ans étudie les aspects sociaux des problèmes féminins, ce travail m'a profondément secouée. En dépit du besoin très vif que j'éprouvais d'en savoir davantage sur la nature biologique de la femme, je ne laissais pas de craindre cette approche et je redoutais tout ce qui pouvait contribuer à ancrer et fixer le destin féminin de manière inexorable. In petto, je continuais de mettre mes espoirs de changement dans les seuls faits sociaux. Or, j'ai découvert au cours de ce long débat nature-culture, que dans l'état actuel de la science et de la civilisation, il apparaît bien plus aisé de modifier les faits de nature que les faits de culture. Il a été bien plus facile de soulager la femme de l'obligation d'allaiter en fabriquant des laits artificiels imitant le lait maternel que de faire en sorte que le père donne le biberon. Je m'arrêterai là. Et tout en disant que je partage encore l'analyse d'Evelyne Sullerot sur la difficulté à modifier les faits de culture, permettez-moi aujourd'hui cependant d'être optimiste et de mettre plutôt l'accent sur le chemin parcouru. Récemment, la presse s'est fait écho des travaux de l'une de nos collègues à la FAPC, Rita Hofstetter, qui, étudiant les débats qui ont présidé à l'ouverture de l'école secondaire de jeunes filles à Genève en septembre 1847, montre que l'objectif poursuivi était à l'époque de soustraire les femmes à l'influence des ecclésiastiques pour les rallier aux valeurs républicaines. Ce qui d'ailleurs a suscité de la part du journaliste le titre suivant « Des femmes instruites, mais pas des femmes savantes ». Et le programme de cet établissement, qui était fort différent de celui du collège à la même époque, comprenait des branches telles que le français, l'arithmétique, la calligraphie, l'histoire, la géographie, le chant, le dessin et les activités d'aiguille. Or, en 1847, l'établissement nouvellement créé comptait 156 élèves. Et à la lecture de cet article, en fait, j'ai mis en relation ce fait avec un autre, lu juste quelques jours plus tôt dans un rapport de l'Office fédéral de statistique qui indique qu'en 1995, 17% des jeunes de 19 ans ont obtenu un certificat de maturité en Suisse et que pour la première fois, il y a plus de femmes, 17,6% contre 16,8% d'hommes qui ont obtenu ce titre, et ceci avec des exigences identiques pour les deux sexes. Donc certes, il a fallu 148 ans, il y a 148 ans entre ces deux faits, mais je crois que même si on doit relever la lenteur du changement, le changement est patent et il va dans un sens clairement établi. Alors, à l'intérieur du monde universitaire, je voudrais simplement relever quelques jalons qui justifient aujourd'hui mon optimisme. D'abord, bien sûr, il faut citer le PNR 35, qui a permis le développement des recherches pluri- et interdisciplinaires dont ce colloque va révéler la richesse. Je voudrais aussi citer la mise sur pied du DES, études femmes, études genre, qui a débuté en 95-96 et qui, déjà pour sa deuxième année d'existence, s'est muée en un diplôme interuniversitaire en collaboration entre Genève et Lausanne. Et je dois dire qu'en parcourant le programme du colloque d'aujourd'hui, j'ai eu plaisir de relever que bon nombre des enseignants du DES, études femmes, études genre, sont aussi des chercheurs du PNR 35, ce qui, à mon avis, est un gage du fait que ce nouveau diplôme repose sur des pratiques de recherche, qui est un gage de sa qualité. Je voudrais dire aussi qu'en ce qui concerne l'application de la loi genevoise, de la loi de 1991 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, le premier rapport établi par notre déléguée aux questions féminines, Annelise Head, a permis de mettre en évidence une progression vers l'égalité, en particulier pour le corps professoral, puisqu'on peut noter qu'entre 1991-1992, et 95-96, on a passé, concernant les postes ouverts attribués à des femmes, de 7,4% à 30%. Enfin, je voudrais aussi noter que, c'est l'avant-dernier point, en ce qui concerne outre ce rapport officiel, puisqu'il est prévu par la loi, notre loi genevoise, nous disposons d'autres documents qui contribue à une meilleure analyse de la situation des femmes à l'intérieur de l'université. Et je voudrais mentionner d'une part le rapport de l'enquête de la commission de l'égalité du rectorat sur le corps intermédiaire féminin, le rapport du groupe de travail du conseil de l'université Univers L, et également une intéressante étude de cas du département de pédiatrie de l'hôpital cantonal et universitaire de Genève qui est intitulée « Femmes, médecins et carrières ». Et enfin, dernier point, mais je crois que c'est last but not least, je voudrais mentionner l'agrandissement de la crèche de l'université. C'est un projet qui a vu le jour en collaboration entre l'université et la ville de Genève. Et ce qui me permet aujourd'hui d'insister sur ce point, c'est la lecture aujourd'hui même dans le Nouveau Quotidien d'un article qui montre que même s'il y a progression, pour des femmes au travail, la période pendant laquelle les femmes vont avoir, et en particulier un premier enfant, représente une sorte de ralentissement dans la carrière professionnelle et qu'en particulier on doit garder ce souci d'augmenter l'encadrement, la prise en charge pour les jeunes enfants. Voilà. Alors certes, bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir. Et en particulier, je pense que je verrai deux objectifs centraux pour les prochaines années. D'abord, encourager plus de femmes à poursuivre des études complètes jusqu'au doctorat, et en particulier dans les sciences dites dures. Les rapports que j'ai mentionnés montrent bien les points faibles, essentiellement au niveau du corps intermédiaire. Il y a vraiment encore des difficultés à établir, à promouvoir la relève des femmes. Et l'autre objectif, je crois, qui est également central, c'est de trouver des structures qui permettront de poursuivre les recherches engagées par le PNR 33. Et là, je crois qu'on peut aussi être optimiste en pensant à la mise en place du centre de gravité des thèmes interdisciplinaires et nationaux, non, qu'est-ce qu'on dit, il y a deux, j'ai oublié le, qui donc intitulé études femmes, qui devrait donc contribuer à nous donner des infrastructures de recherche dans ce domaine. Merci.
Merci Madame l'inspecteur. Madame Balmer, directrice du PNR 35. Merci.
Madame la vice-directrice de l'Université de Genève, Monsieur le vice-recteur de l'Université de Lausanne, Madame la déléguée et collègues, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom du Programme national de recherche 35, Femmes, droits et société, et du Fonds national suisse de la recherche scientifique, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque. Tout d'abord, c'est un plaisir de nous retrouver dans les locaux de la première université de Suisse qui a institutionnalisé les études relatives aux femmes et au genre. Ensuite, c'est un honneur d'accueillir les deux vice-recteurs lémaniques, un colloque que nous consacrons uniquement au projet de recherche roman. Enfin, c'est une très grande joie pour moi que vous êtes venues si nombreuses. Permettez-moi de vous présenter maintenant le programme de recherche numéro 35. Et comme vous le savez déjà, les programmes nationaux de recherche sont initiés par le Conseil fédéral afin de conduire des réflexions scientifiques sur des problèmes d'intérêt national. Il y a eu des programmes sur le dépérissement de la forêt, sur la médecine alternative, sur la génétique, etc. Donc, il y a également un programme national sur l'égalité entre hommes et femmes, le premier de cette envergure en Suisse. Je vais donc tout d'abord vous exposer les objectifs du PNR 35, afin de vous donner une idée de ce que nous cherchons à atteindre. Ensuite, je vais vous citer quelques chiffres sur les projets pour situer un peu le potentiel de recherche qui se trouve derrière le programme. Le PNR 35 poursuit trois objectifs. Le premier est d'expliciter les différents modèles qui sous-tendent les mesures de la politique de l'égalité. Nous sommes d'avis que la mise en œuvre d'une politique de l'égalité digne de ce terme exigerait des réflexions et des discussions de fond sur différentes conceptions de l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur leurs conditions et sur leurs conséquences. Le second objectif du PNR 35 est d'identifier les problèmes et les obstacles auxquels se heurte la mise en œuvre de la politique de l'égalité. Notre but est de connaître non seulement les formes et les situations d'inégalité qui existent dans les sous-systèmes sociaux, les mécanismes et les facteurs qui engendrent et maintiennent et renforcent ces inégalités nous intéressent également. Le troisième objectif du PNR 35 est de clarifier les voies d'action disponibles et possibles vers la concrétisation de l'égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. D'une part, il s'agit pour nous d'évaluer les mesures existantes en rendant explicites leurs effets et leur cohérence. D'autre part, il convient de chercher des nouvelles stratégies qui permettraient de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l'égalité. Voilà nos intentions. Quant à notre potentiel, nous pouvons compter en total sur 24 projets de recherche répartis entre une cinquantaine de chercheuses et de chercheurs. Afin de ne pas trop disperser nos ressources, nous sommes un petit programme, le PNR 35 travaille dans 4 domaines prioritaires. À savoir tout d'abord le monde du travail, où nous avons 8 projets. C'est un peu notre cheval de bataille, si vous voulez, ou bien notre plat de résistance. Et nous en sommes fiers. Ensuite vient le droit avec 6 projets, la famille avec 4 et l'éducation avec 2 projets. Bien sûr, tous les projets ne se laissent pas classer dans ces 4 domaines, mais ils ont été quand même approuvés par notre groupe d'experts, car ils nous ont convaincus par leur qualité et leur originalité. Puisque nous sommes au bord du lac Léman, la question s'impose de savoir quelle était la part romande dans le PNR 35. À cet égard, je peux tout de suite vous dire que les proportions sont tout à fait helvétique, c'est-à-dire bien équilibré. Nous avons un tiers roman et 2/3 allemands. J'ai parlé de l'helvétisme, mais ici peut-être avec une petite différence. C'est un secret connu de tout le monde qu'au Fonds national et au PNR 35, nous n'avons pas de quota régional. Seule la qualité compte. Et peut-être ma présentation du PNR 35 serait incomplète si je ferais économie d'une information. J'aimerais aborder donc une question qui m'a été souvent posée et surtout par des collègues masculins. Des fois de façon très spontanée, des fois avec beaucoup d'hésitation. C'est la question de savoir s'il y a aussi des hommes au PNR 35. À votre intention, je fais le pointage selon, d'une part, la participation formelle administrative, donc en tant que requérant principal, et d'autre part, la participation effective scientifique en tant que chercheur. Et vous avez les chiffres devant vous, c'est la banalité en elle-même. Et voilà, c'est d'abord et peut-être surtout dans les têtes de certains que commence la ségrégation des sexes. Je vous remercie de votre attention.
Bien, alors je pense que nous laissons la place à la table ronde dirigée par Madame Cardia-Fonesch.
En faisant l'hypothèse sous-jacente, c'est que cette évolution n'est pas linéaire, elle connaît des allées et des retours. Et ce n'est pas non plus un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce que les femmes gagnent, les hommes les perdent. Ce n'est pas non plus un état stable, mais c'est plutôt un processus complexe dans lequel le rapport homme-femme est constamment redéfini et se reconstruit sans cesse. Pour cela, nous avons 4 contributions. Nous avons un petit peu changé l'ordre de présentation pour les rendre plus cohérents. Nous demanderons à Liliane Motu de commencer pour nous tracer d'un point de vue historique cette notion et l'évolution de l'égalité homme-femme. Ensuite, nous demandons à Roland Campiche de nous parler de ce rapport ambigu, ou ambivalent plutôt, entre religion et égalité. Ensuite, Patricia Roux nous parlera de la discrimination sexuelle, c'est-à-dire, elle dira, c'est un problème de société auquel chacun et chacune, comme elle a dit, pense échapper dans ses relations quotidiennes, mais que chacun et chacune reconnaît au niveau théorique. Pour finir avec l'exposé de Benoît Bastard, qui placera le problème de l'égalité homme-femme dans le domaine du travail professionnel. Voilà, je passe la parole à Liliane. La dynamique sera que chacune des personnes intervenantes prendra la parole pendant 15 minutes. Vous êtes priés de vous marquer vos questions que nous reprendrons tout ensemble lors d'un débat après la pause dans laquelle nous aurons le temps de reposer des questions aux orateurs qui aujourd'hui sont contraints de vous parler pendant une période très courte. Et on s'excuse un peu de cette obligation, mais je crois que ça nous permettra davantage d'avoir des réponses de la salle. Alors Liliane, merci.
Je vous mets là ici la structure de mon exposé pour que vous puissiez le
entre femmes et hommes en Suisse. Il vaudrait mieux en premier lieu supprimer du titre de cette communication les articles qui précèdent les termes avancée et régression. Il serait en effet illusoire de penser que l'on peut faire le tour des progrès et des reculs qu'a subi le statut des femmes dans la société suisse durant ces derniers siècles. Nous n'aurons donc ici qu'un aperçu de certaines évolutions, positives ou négatives, qui ont déjà pu être observées. Comme dans d'autres domaines, la démarche des historiens et historiennes est longue et laborieuse. J'aimerais notamment rappeler que les femmes présentent le grave défaut d'être restées très longtemps muettes et invisibles, écartées de la sphère publique, ne remplissant qu'exceptionnellement des fonctions dans les instances du pouvoir, elles apparaissent peu dans les documents officiels. Jusqu'au XIXe siècle, elles n'ont que rarement formé des associations et ne se sont guère exprimées en leur nom propre ou au nom de leurs sœurs. Elles ont peu écrit. Les lois qui régissent leur vie et les mots qu'elles utilisent ont été pensés et créés par des hommes. Muettes et invisibles, il s'agit donc de les observer par des voies détournées là où elles sont, là où on leur a permis d'être, mais également là où elles se faufilent, dans les interstices de l'histoire et des règlements, en sachant interroger et interpréter les silences des textes. Par ailleurs, étudier l'égalité en Suisse dans le passé, c'est aussi se souvenir que la Suisse ne forme un pays que depuis 150 ans et que certaines de ses lois sont même plus récentes. Il faut donc déconstruire l'image suisse que nous a forgée l'histoire traditionnelle et prendre en compte les disparités importantes créées par les différentes influences subies dans les régions étudiées. Enfin, il importe de faire la critique du système de représentation qui a servi de filtre au travers duquel l'ancien régime, soit la période du XVIe au XVIIIe siècle, a été longtemps perçu par les historiens des érudits issus des bourgeoisies urbaines qui se contentèrent trop souvent de projeter dans le passé ce qu'ils pouvaient observer autour d'eux, mais surtout dans leur milieu. Bornons-nous à en donner un exemple local. L'archiviste cantonal et professeur d'histoire à l'université, Paul Geisendorf, prenant en 1952 pour modèle d'âme royaume dans sa vie quotidienne au temps de l'escalade, résume ainsi la vie quotidienne des femmes, je cite, « toute simple dans ses petits détails et ses petits événements, le métier du mari, la naissance et la mort des enfants, la maison à diriger, soit tout ce qui de tout temps et en 1602 comme aujourd'hui, tient la première place dans l'esprit des femmes, dans le cœur des mères. » Fin de citation. Cette héroïne populaire du début du XVIIe siècle, présentée comme une mère vouée aux tâches domestiques, était censée symboliser les femmes de tous les temps. Or, à l'époque où elle vivait, comme dans les années où l'ouvrage fut publié, les femmes constituaient une partie importante de la main-d'œuvre. Les buts de la recherche. Notre recherche a eu trois objets principaux. Observer de quelle manière les inégalités entre hommes et femmes se sont manifestées dans le passé, dans les domaines essentiels de la vie quotidienne. Mettre en évidence certaines permanences dans la manière d'envisager les rapports entre les hommes et les femmes et en déterminer l'origine. Enfin, analyser comment et en fonction de quels éléments conjoncturels ou culturels les différences de statut ou de traitement des unes et des autres ont évolué au fil du temps. Les champs d'observation. Les inégalités entre femmes et hommes peuvent se manifester de diverses manières à tous les stades de leur existence. Elles sont notamment ancrées dans les coutumes et les lois régissant le statut des femmes dans le mariage et dans la famille. Mais elles découlent également des images mentales véhiculées à leur sujet par le discours des élites, hommes d'église et de loi, artistes ou littérateurs. Par un effet d'entraînement, le statut réservé aux femmes dans la société les place dans une position de faiblesse sur le marché du travail et dans les structures de l'économie. Parmi tous ces champs d'observation, nous avons privilégié certains aspects du droit civil, capacité juridique des femmes, tutelle des femmes et valeur de leur témoignage, mariage et divorce. L'instruction, la justice civile, matrimoniale, pénale et l'économie, domaine auquel nous avons consacré plusieurs articles ou chapitres de notre rapport final. Maintenant, quelques observations générales sur l'évolution du statut des femmes. Les discriminations ou le processus de marginalisation que les femmes subissent ont généralement pour origine certains principes, parfois très anciens, hérités du droit romain ou germanique, des coutumes régionales et du droit canon. Selon les époques et les régions, ces principes sont strictement pris en compte et appliqués, mais ils peuvent aussi être négligés, puis dans une autre conjoncture, remis en vigueur. Alors qu'au XIIe et XIIIe siècle, le processus d'urbanisation a créé des conditions favorables à l'intégration sociale des femmes, ces dernières rencontrent à partir du XIVe siècle de plus en plus d'obstacles à leurs activités. Dès la fin du XVIe, l'on observe donc pratiquement partout une détérioration du statut des femmes sous l'influence de la conjoncture démographique et économique, de certains facteurs politiques et des réformes protestantes et catholiques. Dans les pays d'Europe et dans les cantons suisses qui subissent l'influence du Code Napoléon, le retour en force du droit romain au XIXe siècle provoque un recul spectaculaire de la condition féminine et des possibilités d'insertion sociale et économique des femmes. Dans de nombreux cas, la relation de cause à effet entre nouvelles conceptions légales et discrimination est directe. Telle loi interdisant aux femmes d'accomplir certains actes ou d'accéder à tel statut. Trois exemples. 1. L'éviction des sages-femmes dans le cas des baptêmes de nécessité à partir du XVIe siècle. 2. Les articles de loi limitant la capacité des femmes à ester en justice et contracter des obligations. 3. Les articles qui les empêchent d'exercer une tutelle ou de témoigner en justice. Sur le plan politique et économique, elles sont exclues des assemblées publiques et les réglementations corporatives de certains métiers les privent parfois de tout apprentissage ou de l'accès à la maîtrise, donc de la possibilité de bénéficier d'une formation et de diriger un atelier. Toutefois, il faut bien remarquer que ces empêchements peuvent être atténués temporairement ou définitivement à la faveur de l'évolution des idées et des mentalités ou de la conjoncture démographique ou économique. Ainsi, dans le cas de la tutelle universelle exercée sur les femmes célibataires, les conditions prévalant au XIXe siècle finirent par en rendre l'abolition inéluctable en 1881, ce qui ne fut en revanche pas le cas de la tutelle maritale, qui ne devait pas être supprimée avant la seconde moitié du XXe siècle. Dans d'autres cas, la discrimination est produite de manière indirecte, par des lois qui cherchent avant tout à protéger les femmes, leur patrimoine ou leurs enfants, au nom de la faiblesse de leur sexe, en latin « imbecilitas sexus », notion qui, dans l'esprit du législateur, recouvre à la fois leur fragilité physique et mentale, notamment face à l'ascendant que peuvent exercer leurs maris sur elles. Trois exemples de nouveau. Les articles de loi qui visent à protéger la dot des épouses constituent un obstacle non négligeable à leur activité économique, ces femmes n'étant pas tenues pour responsables de leurs engagements. Il en va de même pour les mesures de protection contenues dans la loi fédérale sur le travail dans les fabriques de 1877 qui firent encore récemment l'objet de débats importants, ainsi que les tuteurs constitués aux veuves dans certains cantons. Ces tuteurs avaient certes pour but de les assister, de les soulager, de leur donner aide et conseils. Mais par ce biais, les femmes étaient privées de l'autonomie que leur conférait ailleurs le veuvage. Dans ces champs d'observation, donc, on relève une détérioration du statut des femmes entre le XVIe et le début du XIXe siècle. Un domaine nous semble crucial pour expliquer les fluctuations du statut des femmes, celui de l'instruction. L'enchaînement des déterminismes conduisant à une situation d'infériorité des femmes y est particulièrement visible et touche toutes les époques, toutes les sociétés et toutes les couches sociales. Partir à la découverte des origines des inégalités mène inévitablement sur le chemin de la formation scolaire. Tributaire à la fois de la conjoncture et des théories élaborées par les élites sur les rapports sociaux de sexe, les écoles publiques ont longtemps fait l'objet de peu d'attention de la part des gouvernements. Certes, l'étude de la politique éducative des diverses régions de la Suisse met en évidence des différences importantes, surtout imputables à des facteurs religieux, notamment du fait de l'importance de la lecture de la Bible chez les protestants. Du côté protestant, Vaud, Berne, Bâle, Genève et les Grisons ont retenu plus particulièrement notre attention. Pour les régions catholiques, ce sont Fribourg, Le Valais et Lucerne, ce dernier canton ayant été retenu en raison de la présence des sœurs ursulines dans la ville, essentielle pour la compréhension du développement de l'instruction des filles en région catholique. Plusieurs questions nous ont paru fondamentales. La place faite aux filles dans l'enseignement public, la fréquentation de l'école, différenciée des filles et des garçons, les conceptions sous-jacentes aux décisions prises quant au rôle et au contenu de l'enseignement, le rôle de modèle de ceux qui instruisent les filles. De grandes disparités sont apparues, par exemple entre les villes et les campagnes, mais également de nouveau entre garçons et filles. Si la médiocrité des enseignants et l'insuffisance des moyens dont disposent les écoles rurales défavorisent tous les enfants de la campagne, la formation des filles y est cependant plus négligée que celle des garçons. Certes, pour des parents qui devaient renoncer à des paires de bras nécessaires au bon fonctionnement de la ferme familiale ou des activités proto-industrielles, les frais et les sacrifices entraînés par la fréquentation de l'école par le fils et fille sont comparables. Mais pour elles, l'on constate trop souvent une absence de motivation chez les parents, dans la mesure où l'instruction est moins utile à leurs filles pour leurs activités domestiques et familiales futures. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, par conséquent, même quand l'école existe, sa fréquentation par les filles de la ville et de la campagne reste aléatoire, soumise aux possibilités financières fluctuantes des parents et à leur capacité à renoncer à l'apport du revenu salarial ou de la main-d'œuvre domestique qu'elles représentent. C'est là que se trouve l'origine des taux d'alphabétisation féminin médiocres, toujours inférieurs aux taux masculins, que les historiens observent aussi bien à la ville qu'à la campagne. Ce handicap de départ ne peut que se répercuter d'une façon négative sur le destin ultérieur des femmes, souvent incapables de maîtriser la lecture et encore plus l'écriture. Dans le long combat de l'école publique obligatoire, sur le chemin qui va des écoles de village à l'enseignement universitaire, en passant par les écoles secondaires, supérieures et professionnelles, les filles eurent dès le départ une mesure de retard qu'elles n'ont pas encore complètement rattrapée à l'heure actuelle. L'économie et la justice reflet de la vulnérabilité féminine. Dans deux domaines, ce déficit en matière d'éducation et de formation met manifestement les femmes dans une situation de vulnérabilité, celui de leur insertion professionnelle et celui de la justice. Mal instruites et peu qualifiées, les femmes sont les premières victimes du chômage en période de récession dans un processus totalement analogue à ce que l'on observe de nos jours. Leur précarisation accrue en temps de difficultés conjoncturelles résulte d'une substitution de la main-d'œuvre et le taux d'activité des femmes recule de manière plus prononcée que celui des hommes, et notamment plus dans le secteur productif que dans les services. La main-d'œuvre masculine occupe les emplois détenus précédemment par des femmes lorsque le marché du travail se resserre. C'est ce que nous avons pu observer à Genève à la fin du XVIIIe siècle. Je vous ai mis ce tableau qui concerne les recensements de 1798 et 1802. C'est une période de crise et on voit très clairement l'évolution du taux d'activité des femmes et celui des hommes. Celui qui concerne les femmes, ce sont les chiffres en Italie. Et vous voyez très bien que dans l'ensemble, le taux d'activité féminin a passé de 31,5 à 21,8 pour la production de 12,8. Je vous laisse faire la même comparaison en ce qui concerne les hommes. Vous voyez donc que dans une situation de crise, les femmes sont plus exposées à perdre leurs acquis que les hommes. Elles peuvent même être remplacées par des hommes auxquels ces postes sont attribués pour des raisons plus sociales qu'économiques. Et l'on constate que certains hommes acceptent alors des emplois réputés peu prestigieux et donc féminins, entre guillemets, dédaignés dans des temps meilleurs. À l'évidence, ces substitutions seraient rendues plus difficiles si les emplois occupés par des femmes requéraient des qualifications plus élevées. La justice, et ce sera le dernier point traité, la criminalité féminine est caractérisée par des délits dont certains sont considérés comme typiquement féminins. Les infractions à la justice reflètent aussi leur statut de femme dans la société, et ce n'est pas un hasard si celles qui comparaissent en justice sont souvent seules, pauvres, célibataires, abandonnées, veuves ou étrangères, soit privées d'une protection masculine. Les délits qu'elles commettent, vol, infanticide, avortement ou grossesse illégitime, ont un lien direct avec les difficultés qu'elles ont eues à s'intégrer dans la société. Entraînées dans la criminalité par une situation économique ou matrimoniale favorisant sa marginalisation, la femme se retrouve dans les tribunaux dans une position de faiblesse face à un discours et à des juges exclusivement masculins. Illettrée, elle ne comprend pas toujours les questions qui lui sont posées et les dépositions qu'elle doit signer, si elle peut les signer. Le fait qu'elle appartienne au sexe dit faible joue finalement un rôle assez modeste parmi tous les autres éléments qui servent à déterminer la gravité de ses délits. Elle ne bénéficiera donc de circonstances atténuantes que dans quelques cas spécifiques liés à ses grossesses et à ses accouchements. Parfois même, la somme des préjugés qui restent attachés à son sexe aggraveront encore les sentences qui seront rendues contre elle, que l'on se souvienne du rôle pervers que jouèrent dans le cas de la sorcellerie, par exemple, des ouvrages publiés par certains inquisiteurs qui diffusèrent longtemps une image démoniaque des femmes. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la véracité des témoignages féminins est souvent mise en doute davantage que celle des témoignages masculins. Elles ont donc plus de difficultés à faire reconnaître leurs droits. Pour conclure rapidement, j'aimerais souligner que l'inégalité est polymorphe et ne se laisse pas réduire à des schémas rigides. Elle se concrétise dans des réalités très diverses selon les époques et les lieux, ce qui devrait nous détourner de formuler des affirmations trop catégoriques faisant de la femme une éternelle exploitée. Dans certains cas, en raison de la faiblesse de son sexe, en raison de ses grossesses et de ses accouchements, elle jouit de quelques avantages, même si ces mesures de protection présentent à plus ou moins long terme des inconvénients majeurs. L'évolution du statut des femmes dans la société est la résultante de quatre variables: la conjoncture économique, la pression démographique, la législation et les représentations mentales. Les inégalités peuvent s'atténuer ou même disparaître, mais elles menacent toujours de réapparaître. L'on doit constater quelque peu cyniquement que dans ce domaine, rien n'est acquis et que souvent la conjoncture vient en aide à l'idéologie et vice-versa, que l'idéologie vient en aide à la conjoncture pour maintenir des situations inégalitaires à travers les siècles. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Liliane. Je passe tout de suite la parole à Roland Campis.
En lui demandant aussi de faire attention au temps.
D'une certaine manière, mon exposé va se situer dans une continuité avec celui de Liliane Motu, je dirais à propos des représentations mentales, mais aussi de leur légitimation. Nous sommes réunis ici pour donc valoriser les résultats du programme national de recherche 35. Je crois qu'il s'agit d'une opération nécessaire parce que rares sont les personnes qui jusqu'à présent ont eu accès au rapport que nous avons déposé auprès du Fonds national. Dans le cadre de notre projet, il se trouve qu'une commission, il s'agit plus précisément de la commission féminine de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, non seulement a lu notre rapport, ce qui est un fait exceptionnel, mais encore en a dégagé les points qui lui paraissent importants à prendre en considération. Je commencerai donc ce petit exposé par souligner avec cette commission quelques éléments qui s'inscrivent dans le droit fil de mon titre « Religion-égalité, un rapport ambivalent ». À propos de l'accès des femmes au pastorat dans le protestantisme, les membres de cette commission constatent que cette autorisation obéit plus à des critères de nécessité que d'égalité. En outre, les femmes, et en nombre nettement plus grand que les hommes, travaillent à temps partiel et occupent des positions qu'on peut considérer comme précaires. Cette même commission relève aussi la tendance des femmes à endosser un rôle pastoral fortement défini par les hommes et sans se départir au fond de ce modèle, et de ce fait de se trouver dans l'exercice de leur profession très distante des autres femmes. À propos des discours religieux concernant l'interruption de grossesse, un des thèmes qui a aussi été abordé dans notre recherche, la même commission rapporte que les déclarations des églises protestantes en la matière évoluent depuis une trentaine d'années vers la reconnaissance de l'autonomie des femmes, mais le débat s'est déplacé aujourd'hui de la controverse sur la légitimité de l'IVG vers celle touchant l'opportunité d'inscrire ou non dans la loi d'obliger la femme à se soumettre à une consultation psychosociale préalable. C'est l'enjeu de l'autonomie. Alors, dirons-nous, pourquoi cette ambivalence du discours religieux. L'égalité homme-femme n'est pas une valeur religieuse, ou, pour être encore plus précis, ne constitue pas, dans l'émergence de cette valeur, une valeur fortement diffusée par les traditions chrétiennes, mais il s'agit d'une valeur de la modernité que les traditions chrétiennes ont dû s'approprier. En d'autres termes, l'objet de notre recherche a été de nous demander comment ces traditions se sont adaptées à une valeur, ou mieux peut-être à une règle nouvelle, comment elles ont réagi à cette exigence sociale de la modernité, et quelles furent les retombées de l'incorporation de cette valeur pour leur vie interne et pour la société. Au premier regard, on doit toujours commencer par là, mais ensuite le corriger, on détecte deux stratégies des organisations religieuses par rapport à la valeur égalité. Première stratégie, celle de l'opposition, qui se traduit en particulier par le refus argumenté de certaines traditions religieuses de laisser les femmes accéder à la cléricature, comme c'est encore le cas dans le catholicisme romain, ou de participer aux organismes d'autorité de la communauté religieuse, telles certaines églises évangéliques qui réservent le rôle d'anciens uniquement à des hommes. Deuxième stratégie, celle de l'accommodation, caractérisée par la possibilité octroyée aux femmes d'accéder à toutes les positions religieuses dans les organismes ou les organes décisionnaires, y compris les postes de clercs. Ce fut le cas dans le protestantisme multitudiniste en Suisse dès 1947 à Saint-Gall, puis les décisions s'échelonnèrent en fonction des contextes. On retrouve là une remarque de Madame Motu tout à l'heure, en ce sens qu'il a fallu attendre, nous sommes sur l'arc lémanique, 1973 pour que toutes les églises donnent ce droit. La dernière a été celle du canton de Vaud. Je crois que c'est une occasion, au fond, de souligner encore d'une autre manière que la résistance à traduire l'égalité dans les faits a été plus ou moins forte selon les contextes, donc il faut se garder des idées trop générales. Mais, et c'est le rôle du sociologue, il ne faut pas se fier aux apparences. Opposer un protestantisme ouvert à l'égalité et un catholicisme intransigeant révèle ou relève plutôt d'une analyse incomplète. L'observation des pratiques sociales, ce qui est le propre de la sociologie, tend à montrer que la situation est plus complexe. Comme l'a bien perçu la commission féminine de la FEPS, d'une part, les femmes ne forment aujourd'hui que 18,5% du corps pastoral, un pourcentage semblable ou même plus bas que celui concernant des professions analogues, avocates ou femmes médecins, et surtout, plus de la moitié d'entre elles, en ce qui concerne les femmes mariées, 68%, exercent leur métier à temps partiel contre 12,5% des hommes. On rejoint ici les analyses de sociologie du travail pour constater qu'égalité d'accès aux professions ne correspond pas forcément à égalité d'accès à l'exercice du pouvoir. Quant aux raisons qui ont milité en faveur de ce changement de 1945 à aujourd'hui, elles peuvent être de l'ordre idéologique, c'est-à-dire pour respecter la valeur égalité, mais elles s'expriment aussi en termes fonctionnels, en faisant valoir la pénurie de ministres, sans compter ce qui est de l'ordre de l'implicite, à savoir la perte de prestige des professions cléricales dans le contexte contemporain. Du côté catholique, autant l'interdiction de l'accès des femmes à la prêtrise a été répétée encore récemment, autant, je dirais dans le même laps de temps, on a souligné l'égale dignité des femmes et des hommes et valorisé le travail des femmes dans la société. À quoi s'ajoute, aussi en fonction d'une pénurie peut-être encore plus accusée dans le catholicisme que dans le protestantisme, d'une pénurie de prêtres, l'apparition de ce qu'on pourrait appeler les quasi-prêtres, à savoir de toute une gamme de positions assumées par les femmes, allant de la catéchèse jusqu'à la quasi-prêtrise, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis ou au Québec. Donc, plutôt que de stratégie d'opposition versus stratégie d'accommodation, on pourrait parler de stratégie d'accommodation et de stratégie de contournement. L'exemple de l'accès à la cléricature et de ses aléas illustre à la fois l'ambivalence du discours et des pratiques religieuses par rapport à la valeur égalité, mais aussi, dans ce domaine précis, l'ambivalence des attitudes et des comportements sociaux en la matière. Mieux qu'un développement théorique, l'analyse des positions prises au sujet de l'IVG en fournit la preuve. En quelques 30 ans, le protestantisme suisse, sur ce plan je suis obligé évidemment de renoncer à parler du catholicisme, on est passé d'une position très restrictive, du style indication sociale, psychologique, à une position tolérante, du type solution du délai. Mais les réticences au changement et partant à la pleine reconnaissance de l'égalité des sexes, se sont déplacées en se fixant sur la question « rendre obligatoire ou non la consultation psychosociale ». La volonté de contrôler le corps des femmes n'est pas morte. Elle s'exprime simplement dans une rationalité non religieuse et apparemment en accord avec la modernité, un phénomène qui caractérise d'ailleurs la société dans son ensemble. Le temps me manque pour discuter plus avant ce que cache le concept d'égalité et pour mettre en évidence que non seulement il s'agit d'une construction sociale exprimant un jugement, mais encore qu'il s'agit d'un terme à signification variable. Or, dans le champ religieux, si la notion peut être utilisée pour qualifier la similitude des droits et des devoirs entre les genres, avec pour effet social la neutralisation du genre comme variable discriminante, il peut servir aussi au développement d'un discours sur la spécificité du genre féminin et de l'identité féminine, générant une nouvelle configuration inégalitaire. Cette tendance est renforcée par le phénomène moderne d'individualisation qui touche très particulièrement le champ religieux en faisant de la religion une ressource pour gérer les impossibles exigences de la modernité, telles pour les femmes d'assumer le double rôle de femme performante et de mère exemplaire. Dans ce sens, si l'on pouvait approfondir l'analyse et la recherche dans cette direction, qui n'est plus celle de ce que la modernité fait à la religion, mais ce que la religion fait à la modernité, on retrouverait peut-être une fonction quelque peu oubliée de la religion, c'est-à-dire la fonction protestataire, et dans notre contexte de protestation, qui peut prendre d'ailleurs différentes formes avec différents effets sociaux, contre les excès de la modernité. Mais une fonction, et c'est là tout le problème encore de l'ambivalence et du rôle social de la religion, mais une fonction qui s'exerce aujourd'hui de façon plus individuelle qu'institutionnelle. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Roland Capiche. Je passe la parole à Patricia Roux.
Le mot égalité est maintenant dans toutes les bouches, dans tous les médias, chez tous les politiciens. Dès qu'on doit traiter un sujet qui touche aux hommes et aux femmes, on se targue de l'égalité, on revendique la nécessité d'en référer à l'égalité. Et avec ce mot, finalement ce concept qui me paraît extrêmement flou, derrière lequel on ne sait pas toujours ce qu'il y a, on en arrive à défendre aussi bien le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, par exemple, que l'ouverture, l'accès à toutes sortes de professions, un accès plus large qu'il ne l'est aujourd'hui pour les femmes. On pourrait trouver 100 000 exemples comme ça où, au nom de l'égalité, on fait des choses qui, quand même, au premier abord, sont relativement contradictoires. Et pour notre part, nous nous sommes demandé dans notre recherche comment ce que les gens au quotidien, hommes et femmes, gèrent l'écart qu'il peut y avoir entre une norme d'égalité, une référence qui devient permanente, mais derrière laquelle on ne sait pas très bien ce qu'il y a, et des pratiques qui continuent à être inégalitaires. Comment est-ce qu'on gère cet écart? Ça, c'est une question, et la question corollaire à celle-ci qu'on a essayé de traiter, c'est pourquoi les individus, alors en particulier les femmes, ne se révoltent-elles pas davantage contre les inégalités rencontrées au quotidien, que ça soit au travail ou à la maison, dans la sphère publique, politique, etc. On a cerné, je dirais, deux raisons. Ça n'a rien d'exhaustif et il y en a certainement beaucoup d'autres au niveau d'un fonctionnement psychosocial quotidien. On a cerné deux raisons que je vais développer justement aujourd'hui, rapidement. La première, c'est que l'inégalité au quotidien, ça n'existe pas. Ce qu'on vit dans les relations personnelles avec les autres n'est ni vécu ni perçu comme inégalitaire. Je vais y revenir avec des résultats là-dessus. La deuxième, c'est que l'égalité, c'est une façon, parmi d'autres, de concevoir ce qui est juste entre hommes et femmes. Il y a d'autres façons de penser la justice entre hommes et femmes au niveau du quotidien, et je vais aussi y revenir. C'est pas la seule référence que l'on a pour faire ce qu'on estime devoir être fait au travail, à la maison, etc. Alors dans la recherche, je présente très brièvement la population, que vous sachiez sur quelle population s'appuient les résultats que je présente. Il y a 400 personnes interrogées, 200 femmes, 200 hommes, tous et toutes mariés, mais on n'a pas interrogé les couples. Il y a un membre dans chaque couple qui a été interrogé, donc si vous voulez, 400 couples touchés par l'enquête. Pour des raisons, simplement, il fallait qu'on soit sûr, en fonction des moyens qu'on avait, que les personnes qu'on allait interroger soient en interaction au moment de l'enquête, vivent un partage des tâches ménagères, une répartition de l'emploi, de l'activité professionnelle et des choses de ce genre, puisque notre enquête allait porter là-dessus. Ces personnes sont représentatives de l'ensemble de la population lausannoise, en l'occurrence. Tous les milieux sociaux, culturels, professionnels sont représentés. Elles ont de 25 à 60 ans. Et elles sont toutes suisses, là aussi, pour éviter de devoir tenir compte de facteurs culturels qui, bien entendu, peuvent avoir de l'importance. Alors, j'attaque tout de suite avec ce qu'on a, un certain nombre de mesures qu'on a mises en place pour évaluer comment l'inégalité est perçue. On a distingué à ce niveau-là deux niveaux de comparaison. Pour dire que quelque chose est égal ou inégal, il faut bien se comparer à quelqu'un. Et on a introduit une comparaison qu'on pourrait dire collective, qu'on fait extrêmement souvent, c'est-à-dire comparer tout simplement les hommes aux femmes. Comparaison intergroupe. Alors, par exemple, on a posé des questions comme, dans le domaine ménager, estimez-vous que la situation des hommes est plus enviable que celle des femmes en général? Dans le domaine professionnel, avez-vous le sentiment que les femmes en général sont plus discriminées ou désavantagées que les hommes en général? C'est une comparaison collective. Et puis, on a introduit une comparaison individuelle, interpersonnelle, qui porte sur la sphère plus privée, entre guillemets, dans laquelle sont insérées les personnes, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que, dans le domaine des enfants, pour les personnes qui avaient des enfants, estimez-vous que vous, en tant que femme, vous êtes amenée à faire plus de sacrifices que votre conjoint? On posait la même question à l'homme. Est-ce que vous avez l'impression que votre femme fait plus de sacrifices que vous? Idem dans le niveau au niveau professionnel, on a proposé une comparaison entre la femme qui travaille et son collègue direct masculin, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quand on pose la question à niveau... Donc les questions sont exactement les mêmes au niveau intergroupe et au niveau interindividuel, si ce n'est que la comparaison porte sur homme-femme en général dans le premier cas et sur soi et le conjoint ou la conjointe dans le deuxième cas. Entre 70 et 75% des hommes et des femmes interrogés reconnaissent que, disent oui en général, ou oui tout le temps, les femmes sont discriminées dans les domaines ménagers, dans le domaine éducatif, dans le domaine professionnel. Cette discrimination est extrêmement visible et admise. Quand la comparaison est ramenée au niveau individuel, ce pourcentage tombe à 45%. 45% de personnes disent être désavantagées sur tel ou tel plan à un niveau personnel. Et sur, dans le domaine professionnel, quand on demande à une femme de se comparer à son collègue masculin, le pourcentage tombe même à 18%. Il n'y a plus que 18% de femmes qui s'estiment discriminées, elles, par rapport à leurs collègues masculins, alors qu'il y en a 80% d'entre elles qui estiment que les femmes, en général, le sont. Donc, la discrimination des femmes est largement reconnue sur le plan collectif, mais par contre, dès lors qu'il s'agit d'évaluer la situation personnelle que l'on peut vivre, on minimise l'inégalité. Et c'est pas contradictoire. Ça n'est pas contradictoire, c'est tout simplement que on ne vit pas sa situation personnelle comme inégalitaire. Il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte que l'objectif d'égalité. Ça n'est pas la référence pour juger ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'au niveau des pratiques des personnes qu'on a interrogées, ben grosso modo, on arrive aux moyennes nationales. C'est-à-dire que 80% des hommes et des femmes interrogés reconnaissent que chez eux, c'est la femme qui s'occupe principalement de toute l'activité domestique. 73% admettent que c'est la mère qui s'occupe des enfants. Et puis, on a, nous aussi, 98% des hommes qui travaillent à plein temps. Et on n'en a que 10, là, le taux est très bas, de femmes qui travaillent à plein temps. Sans compter qu'il y en a un tiers qui sont femmes au foyer. Donc, il n'y a pas de doute, la répartition des tâches et des rôles est, disons, déséquilibrée. On ne peut plus dire inégalitaire, puisque les gens ne la vivent pas comme inégalitaire. Et si vous posez la question, en fait, hommes et femmes se montrent extrêmement satisfaits de cette répartition déséquilibrée. Le taux de satisfaction est extrêmement élevé. Ils estiment qu'elle est juste, qu'elle est équitable. Je passe sur un certain nombre de chiffres à ce niveau-là, mais grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que ce soit le travail, l'activité domestique, les enfants, tout se vit au quotidien plutôt sur le mode de la complémentarité qui vise, ça s'est exprimé très clairement, l'objectif premier, c'est dans cette perspective de maintenir l'équilibre du couple. Ce sont des gens mariés, je rappelle. Maintenir l'équilibre du couple, éviter des tensions, s'arranger avec la réalité quotidienne qui est ce qu'elle est et qu'on ne peut pas passer son temps à changer. Et dans tout ça, l'égalité devient un objectif absolument secondaire. Alors ces contraintes évoquées, liées au quotidien, liées à l'organisation ou conjugale ou familiale, sont un argument extrêmement important pour justifier le type d'organisation conjugale qu'on a mis sur pied. On dit qu'on a choisi de s'organiser comme ça, que j'ai choisi de travailler à temps partiel, me dira telle ou telle personne, et en même temps, ça arrange tout le monde à la maison que je travaille à temps partiel, dira la même personne. Donc, il y a ces deux aspects, on ne peut pas faire autrement, en même temps qu'on a un sentiment de choix. J'ai encore 2 minutes, donc ça va ? Alors, on a fait trois scénarios où les gens devaient se prononcer, qui permettent d'aborder ce problème. Grosso modo, on présente un couple ça dépend des situations. Dans certaines situations, pas dans d'autres, un homme et une femme, parfois en couple, d'autres fois pas, qui soit vivent ensemble, soit travaillent ensemble, etc., et qui ont un conflit à un moment donné pour la gestion justement du quotidien, la répartition. Il y a 3 scénarios, un sur la répartition des tâches ménagères, un scénario sur la garde des enfants dans un cas de divorce, et un scénario sur la répartition de l'emploi dans un cas de récession dans une boîte où il faut tout d'un coup se partager un plein temps. Et il y a chaque fois deux acteurs, un homme et une femme, qui ne sont pas d'accord sur la répartition. Et nous demandons aux personnes interrogées de lire ce scénario et de dire quelle serait, selon eux, la solution la plus juste pour tout le monde. On n'a pas parlé d'égalité. On leur dit qu'est-ce qui vous paraît le plus juste pour régler ce conflit. Et on se rend compte que l'égalité n'est pas la seule manière de faire le juste. Il y a grosso modo trois manières, il y en a certainement d'autres, mais nous avons pu en repérer trois façons de faire le juste dans les rapports hommes-femmes. Il y en a une, c'est la parité. Disons, appelons-la comme ça, par référence au débat 50-50, c'est-à-dire les personnes qui disent « bon, il y a 24 heures de ménage à se distribuer, là, dans le scénario, 12 pour la femme, 12 pour l'homme, quel que soit le temps de travail de chacun, etc., etc., les conditions. Idem pour les enfants, pour l'emploi, au moment où il faut se partager un plein temps, ben, chacun prend le mi-temps. » Donc, vous avez à peu près 30% des personnes qui sont sur ce modèle-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils vivent, c'est un modèle qu'ils défendent. Et puis, on a un deuxième modèle qui est celui de la proportionnalité, c'est-à-dire tenir compte des investissements de chaque conjoint pour déterminer la part qui lui revient dans ses droits et ses devoirs. Par exemple, la femme travaille à 80%, l'homme à plein temps. Au niveau de la répartition des tâches ménagères, les personnes qui font ce calcul de proportionnalité, qui raisonnent sur ce mode-là, disent « bon, bah alors, elle fait 20% de plus de tâches de ménagères que lui ». C'est une autre forme d'égalité que la première. Elle travaille 20% de moins au niveau professionnel, elle peut faire 20% de tâches ménagères de plus. Mais le fondement de ce raisonnement est complètement différent. Enfin, la troisième façon de faire la justice dans ces rapports qu'on a vus ici est celle qu'on connaît bien, qui est justement relativement critiquée, mais qui touche quand même 40% des personnes, qui est le modèle plus traditionnel, à savoir de s'appuyer sur le statut sexuel de la personne pour déterminer ce qui lui revient. Donc c'est en fonction du fait qu'on est un homme ou qu'on est une femme, qu'en tant que femme, on doit faire le ménage et s'occuper des enfants, et en tant qu'homme, on doit travailler et ramener de l'argent à la maison. Le modèle ici est très, très clair. Donc, je conclurai en disant, ce dernier modèle plus traditionnel représente 40% des prises de position des gens. Autrement dit, il y a une majorité des personnes qui sont favorables à une répartition plus équilibrée des droits et des devoirs. Entre hommes et femmes. Mais il y a un élément extrêmement important. Quand on demande aux personnes de justifier pourquoi elles ont fait leur répartition selon tel ou tel modèle que je viens de décrire, systématiquement, quand on s'en réfère au statut sexuel de la personne pour déterminer les rôles, on invoque la réalité que l'on vit, ses contraintes, pour justifier et légitimer ce mode d'organisation qui, je le rappelle, correspond au mode d'organisation conjugal dominant dans cette population et dans la société. On invoque la réalité, on ne peut pas changer la réalité, on ne peut pas faire autrement, et c'est un peu le serpent de mer qui se mord la queue. Si vous voulez, dans la permanence et l'urgence du quotidien, est juste ce qui est faisable, tout simplement. Et on doit s'accommoder des inégalités pour que la cellule conjugale ou familiale puisse fonctionner. Ce n'est pas qu'on défend cette manière de faire l'égalité, de faire la justice, parce qu'on croit que c'est la meilleure et la plus juste. C'est que on fait ce qu'on peut faire et ce qu'on croit devoir faire. Et puis en plus, il faut bien légitimer, sans quoi la vie serait insupportable, il faut bien légitimer le mode d'organisation qu'on a mis en place, dans lequel on est complètement impliqué, sinon alors tout serait remis en question, en péril, et la réalité à ce niveau-là constitue un excellent support à cette légitimité. Une phrase pour conclure, je pense que les idées ont avancé, du point de vue de l'égalité, mais les comportements je suis extrêmement sceptique là-dessus, confrontée à une réalité qu'il faut absolument changer si l'on veut que l'égalité se passe ailleurs que dans la tête des gens, si l'on veut qu'on croit tout simplement possible de vivre d'une façon plus égalitaire entre hommes et femmes.
Merci beaucoup Patricia Roux. Je passe la parole à Benoît Basta. Je m'excuse auprès de la salle du petit retard que nous avons pris. J'espère que l'intérêt des exposés vous permettra de raccourcir un peu la pause. Voilà, Benoît, à toi.
Bonjour. Donc, je présente un travail qui a été réalisé par une équipe de recherche dont plusieurs membres sont présents, Viviane Gonick, Laura Cardier-Vonesch, et un est absent, Malik Van Almen. Et nous avions choisi d'intituler cette présentation « Le sexe du travail, un bricolage permanent ». Pour illustrer ce titre, ou ce que nous entendons par ce bricolage permanent, j'aimerais d'abord vous montrer un premier transparent qui est en fait une publicité. La dame dit « Qui sort le chien ce soir ?» Le monsieur « J'y ai déjà été hier. » La dame « Et qui prépare le souper ?» Le monsieur « Bon, je sors le chien. » Donc c'est cette idée que les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes et qu'on assiste à des interactions, à des reconsidérations au sujet de ce que sont les identités masculines et féminines. Je continue avec une anecdote qui est tirée de notre travail d'enquête. Un des membres de l'équipe interviewe le responsable d'une entreprise un des responsables d'une entreprise qui est une entreprise dans laquelle on fabrique, j'en reparlerai plus loin, des composants, comment est-ce qu'on appelle ça, informatiques ou électroniques. Et dans cette entreprise, les femmes sont, l'entreprise emploie beaucoup de femmes, et beaucoup sont devant une machine toute la journée, c'est un travail répétitif et monotone. Et le sociologue demande, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce sont des femmes qui font ce type de travail répétitif et monotone? Et le cadre explique que les femmes aiment ça, et qu'au fond, elles sont très bien adaptées par rapport à ce genre de tâches, qu'elles supportent bien la monotonie du travail. Alors, de façon un peu provocante, le sociologue dit « Mais dans l'horlogerie aussi, les hommes sont toute la journée devant leur, l'établi, à faire des tâches répétitives et monotones. » Et alors le cadre a tout de suite une réponse, il dit « Mais c'est pas du tout pareil, parce que dans l'horlogerie, l'horloger lui, il fait toute la montre. » Autrement dit, il requalifie la tâche d'une autre façon qui fait que il reste, au fond c'est la même chose, mais il reste une différence qui fait que l'horlogerie c'est un travail homme alors que ce travail de composant, je sais pas quoi, est un travail de femme. Alors, notre enquête porte là-dessus, c'est-à-dire au fond sur cette manière que l'on a de constituer des représentations au sujet du travail des hommes et des femmes qui indiquent que ceci est un travail homme, ceci est un travail femme et comment ça se transforme à travers le temps. Et l'étude a porté sur 3 entreprises de la région genevoise. Et dans un premier temps, je présenterai brièvement ce qu'il y a à dire de ces entreprises au sujet de la répartition des hommes et des femmes dans le processus de travail. Et puis je reviendrai à cette question de comment se constituent, comment se transforment les stéréotypes ou les images que nous avons du travail masculin et féminin. Je présente d'abord ce que sont donc les 3 entreprises et comment elles répartissent les hommes et les femmes dans le processus de travail. La première entreprise, elle s'appelle Alim pour nous, c'est une entreprise qui fabrique, qui transforme des produits laitiers et on passe, disons, de l'arrivée du lait sur la gauche du transparent par une série de services ou de secteurs de travail, d'unités de travail, jusqu'à la fabrication de fromage et de yaourt. Ce qui est important à dire, c'est très simple, c'est qu'au fond, dans cette entreprise, les employés travaillent successivement sur le produit qui passe devant eux et qu'il y a des unités, les premières ici, qui sont constituées uniquement d'hommes et qui sont des hommes qui appartiennent qui sont les hommes qui appartiennent au métier du lait. Ce sont par exemple des fromagers. Et puis ensuite, il y a d'autres unités de travail dans lesquelles on trouve une certaine mixité. Des hommes et des femmes travaillent ensemble, par exemple pour l'emballage et la préparation des commandes. Deuxième entreprise. Le type d'organisation est complètement différent. C'est une entreprise qui a une organisation cellulaire. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui fabrique ses composants électroniques. La caractéristique de la répartition des hommes et des femmes, au fond, c'est que l'entreprise fabrique différents types de pièces, des grosses et des petites. Les unes sont un peu plus lourdes que les autres, et les hommes, en fait, sont ceux qui fabriquent les grosses pièces. Il se trouve aussi que c'est moins répétitif, il faut faire plus d'opérations différentes, et les femmes, comme je le disais, sont dans les ateliers entre 5 et 11 personnes dans lesquelles elles sont devant ces machines. Troisième entreprise. Média. Et c'est une entreprise beaucoup plus complexe. Les deux précédentes ont quelques centaines d'employés. Celle-ci en a 800. Et elle a une structure assez compliquée dans le sens où, sur la gauche, transparent, vous voyez, j'ai écrit unité 1, unité 2. On a des unités qui sont vraiment les structures avec lesquelles on travaille, mais qui sont renouvelées périodiquement. C'est là qu'on fabrique le produit culturel qui est le produit de l'entreprise. Et là, il y a une véritable mixité. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Les femmes et les hommes qui travaillent ensemble dans ces unités mixtes proviennent de structures plus permanentes, qui sont des structures par métier, qui, elles, ne sont pas des structures mixtes, qui sont composées principalement d'hommes et de femmes. Je ne sais pas, par exemple, des décorateurs ou des monteuses de vidéo, ou etc. On pourra reparler un peu plus tard de ces structures-là. J'en reviens maintenant à la question de savoir comment, dans ces trois entreprises, comment se constituent, comment se transforment les images, les représentations que l'on a de ce qui est un travail homme ou de ce qui est un travail femme. Ça va être très bref et schématique, je vous renvoie au rapport de recherche si vous voulez en savoir plus. Dans les deux entreprises industrielles, les deux premières, au fond, un des processus principaux par lesquels on assigne à un sexe une tâche, c'est un processus de naturalisation des tâches. On considère que certaines tâches, par nature, reviennent aux hommes et aux femmes par leurs caractéristiques mêmes. J'en donne tout de suite un exemple en ce qui concerne la première entreprise, l'entreprise de transformation du lait. C'est un extrait d'un entretien avec un des responsables de l'entreprise. Ici, c'est le métier, c'est la force physique. À la préparation des commandes, il y a 30 messieurs et 6 dames. Les dames sont assez habiles, mais c'est dur parce que la température est fraîche. Il fait 5 degrés et quand il y a quelque chose de lourd à faire, elles appellent les gars autour. Dans la fabrication des fromages à pâte molle, c'est la chaleur. Pour fabriquer des tomes ou des reblochons, dans les ateliers de fabrication où se fait le caillage, il fait 29 degrés. Autrement dit, si vous voulez, et il fait 29 degrés et il n'y a que des hommes, les laitiers. Hein. Autrement dit, si vous voulez, c'est à travers le lourd, le chaud ou le froid, les contraintes, que on produit d'une certaine manière l'idée que ici il s'agit d'une tâche qui doit être faite ou qui est faite par des hommes, ici c'est une tâche qui est faite par les femmes. Même chose en ce qui concerne la deuxième entreprise, mais j'en ai déjà un peu parlé, je le cite encore. Il s'agit cette fois des caractéristiques de la tâche qui ont trait, comme je le disais tout à l'heure, à la minutie ou à la monotonie du travail. Dans le petit montage où il faut prendre un peu de soin et qui est répétitif, les femmes aiment ça. Elles aiment faire des choses soigneuses, répétitives. C'est assez joli, c'est méticuleux. Vous savez, le bobinage, par exemple, ça fait penser aux machines à coudre. Elles aiment ça. Peut-être que ça leur permet de penser à leur famille, à leurs enfants. Dès qu'il s'agit d'un montage plus sophistiqué, c'est différent. Il y a peu de femmes qui aient fait l'apprentissage de mécanicien électronicien et on a des hommes. Bon, vous souriez. Bon, c'est évident qu'on a pris les choses les plus caricatural, bien sûr, mais il faut dire un certain nombre de choses à propos de ces stéréotypes. C'est d'abord, ici, c'est ce que disent les représentants de les cadres de l'entreprise. Mais ces stéréotypes sont partagés par tout le monde au sein de l'entreprise. Les employés autant que les cadres ont ces idées sur quelle tâche revient aux uns et quelle tâche revient aux autres. Hein, faut le souligner pour nuancer le fait qu'on a utilisé ici des entretiens avec certains responsables. Dans la troisième entreprise, et vous allez voir que c'est intéressant, le stéréotype de à qui revient une tâche masculine et féminine n'est plus fabriqué de la même façon. Ça fonctionne plus à la naturalisation des tâches. Parce que le stéréotype principal ici, c'est que un homme et une femme, c'est pareil par rapport au travail. Qu'il y a égalité et que les gens peuvent travailler de la même manière dans un univers mixte. Alors bon, on a affaire, Roland Campiche tout à l'heure parlait de la valeur égalité ou de l'idéologie de l'égalité. Ici, au fond, les choses sont différentes. On fait en tout cas comme si c'était l'égalité qui était la norme. Pour l'illustrer, je cite à nouveau un des responsables de l'entreprise. C'est donc un des responsables du personnel qui dit « Une fois j'ai fait changer d'avis la ligne hiérarchique dans un engagement, ils avaient décidé d'engager un homme qui partait faire son école de sous-officier 8 mois après le moment où on l'aurait engagé. Je leur ai demandé « Si une femme vous dit qu'elle est enceinte d'un mois, qu'elle va être absente dans 8 mois pour accoucher, mais qu'elle reviendra 4 mois après, est-ce que vous la prendriez ?» Ils m'ont répondu non, ça les a fait réfléchir et ils sont revenus sur la décision d'engager l'homme en question. Autrement dit, ici, le stéréotype fort, c'est qu'il faut agir pareil avec les hommes ou avec les femmes. Bon, il ne faut pas idéaliser non plus, dans cette entreprise aussi, il existe certaines inégalités, mais disons que les représentations sont qu'il n'y en a pas ou qu'il ne devrait pas y en avoir. Quelques remarques donc à propos de ces représentations du travail des hommes et des femmes. J'ai dit tout à l'heure qu'elles sont partagée largement dans l'entreprise, qu'elle traverse certains clivages, notamment les clivages hiérarchiques, on les retrouve à différents niveaux. Il faut dire, on peut aussi réfléchir à la manière dont sont construites ces représentations de ce qui est homme ou de ce qui est femme dans un travail, et montrer, on l'a fait notamment avec des observations ergonomiques dans les entreprises industrielles, et montrer qu'au fond, on emprunte certaines caractéristiques à la tâche pour en faire la caractéristique totale de la tâche. Il y a les meules de fromage à porter, c'est lourd, et on dit cette tâche est pour des hommes forts, en gros. Hein. Mais la tâche a bien d'autres caractéristiques qu'on fait disparaître en quelque sorte dans ce processus-là. Et puis un dernier point extrêmement important dans notre analyse, c'est qu'au fond, ces images, ces représentations, ces stéréotypes sur ce que sont les tâches, ils sont extrêmement forts, mais sont changeants. C'est-à-dire qu'au fond, ça se modifie au fur et à mesure que la réalité du travail se modifie. Des exemples, à un certain moment, dans le travail de cette entreprise culturelle, les monteuses sont des femmes, ce sont des monteuses. Puis à un moment, quelques années après, les formations changent, l'accès aux formations change, et voilà qu'il y a des hommes, et la monteuse peut devenir un monteur. À l'inverse, les décorateurs sont des hommes à un certain moment parce que c'est lourd, et puis à un moment après, eh bien, les formations, l'accès aux formations a changé, l'entreprise a changé sa politique, les décorateurs sont des décoratrices, et tout le monde trouve ça, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Autrement dit, on peut dire que ces représentations se transforment avec les réalités auxquelles elles renvoient. Et ça, c'est un point important pour notre analyse, et j'en arrive à la conclusion, c'est qu'au fond, on a affaire à des représentations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, extrêmement ancrées dans le fonctionnement et dans l'imaginaire des gens de l'entreprise, mais en fait, des représentations qui n'ont pas beaucoup d'autonomie par rapport aux réalités par rapport auxquelles elle renvoie. Ce qui veut dire, et c'est un point important, en termes d'intervention, en termes d'action, que on peut transformer les choses à partir du moment où on transforme les réalités. Par exemple, dans ces ateliers de fromagerie, il y a des entreprises dans lesquelles, on nous le cite en Italie, on a mis une machine pour soulever la meule de fromage, et à ce moment-là, l'argument « c'est lourd, donc c'est masculin » disparaît, et ça ouvre d'une certaine manière l'accès à d'autres personnes que les hommes. Donc, ça se transforme, et en agissant sur les réalités, on agit sur les images. Dernier point quand même extrêmement important, c'est que en agissant sur les réalités, on agit sur les images et la représentation de ce qu'est homme et de ce qu'est femme se transforme, mais la représentation qu'il reste des choses qui sont hommes et des choses qui sont femmes est toujours présente. C'est-à-dire que les limites ou les frontières de ce qui est, revient aux hommes et ce qui revient aux femmes sont reportées quelque part ailleurs. Bon, et il y a toujours des idées de hiérarchie, d'ailleurs de hiérarchie dans un sens ou dans un autre. On a affaire à la recomposition permanente d'un rapport de sexe avec toujours quelque part des différences violences et certainement des inégalités. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Benoît Bastard. Je vous propose de faire une pause dans laquelle on va partager notre retard entre 5 minutes moins de pause et 5 minutes moins de discussion. Mais je pense que c'était pas la peine d'interrompre des exposés aussi intéressants. Donc, il est 10. Alors, je vous propose que autour de 35, on se retrouve ici dans cette salle pour une discussion commune dans laquelle vous aurez l'occasion de poser beaucoup de questions aux orateurs et en essayant d'avoir aussi un débat entre les orateurs eux-mêmes. Je vous remercie, je vous souhaite un bon café.